Europe 1, en balade avec Rupert Evrette, Frédéric Taddeï.
Bonjour, bon dimanche, c'est en compagnie de Rupert Evrette que nous partons en balade aujourd'hui. Rupert Evrette, c'est 40 films dont Another Country qu'il a révélé dans le monde entier, ou Le mariage de mon meilleur ami avec Julia Roberts, autant de pièces de théâtre et de rôles à la télévision, Les liaisons dangereuses notamment avec Catherine Deneuve. Mais il a écrit aussi deux romans et l'une des meilleures autobiographies jamais publiées par un acteur, ça s'intitule Tapis rouge et peau de banane. Aujourd'hui, il sort son premier film en tant que réalisateur, The Happy Prince, dans lequel il interprète Oscar Wilde à la fin de sa vie. Il nous a d'ailleurs donné rendez-vous à l'hôtel, rue des Beaux-Arts, où Oscar Wilde est mort dans le plus grand dénuement en 1900.
Europe 1, en balade avec Rupert Evrette, Frédéric Taddeï.
Bonjour, donc, il va vous falloir parler français.
Oui, moi je peux parler un peu, il parle très bien français. Oui.
Bonjour, il faut que vous me présentiez, Merlin Holland,
et moi je suis Rupert Everett.
Oui, je vous avais reconnu, Merlin Holland, je ne l'avais jamais rencontré, vous êtes le petit-fils de...
Je suis le petit-fils d'Oscar Wilde, voilà.
C'est vrai qu'on oublie toujours qu'il a eu deux enfants, deux fils, hein, avec sa femme, et l'un des deux était votre père.
Oui, mais en quelque sens, je me considère plutôt le fils de mon père que le petit-fils de mon grand-père, parce que c'est lui qui m'a influencé toute ma vie. Ben, Oscar est décédé 45 ans avant que je sois né. Mon père était encore très jeune, il avait 8 ans lorsque mon grand-père fut mis en prison.
Et vous, Rupert Everett, d'où vous vient cette passion pour Oscar Wilde que vous avez très souvent interprété au cinéma, au théâtre? Vous avez même joué son rôle dans la pièce de David Hare, The Judas Kiss.
Par hasard, finalement, je crois, plusieurs choses m'ont touché dans ma vie. D'abord, ma mère... quand j'avais 7 ans, 8 ans, m'a lu au lit Le Prince Heureux. Et je me souviens de ça très, très bien. C'est une sensation de confort que tu as avec ta mère à cet âge-là. La vie qui n'est pas du tout compliquée dans la campagne pour moi. Je venais d'une famille assez militaire, conservateur. Et cette histoire au sujet de l'amour, la souffrance, le prix payé pour l'amour... m'a vraiment tourné la tête, parce que dans la cuisine à la maison, on ne parlait pas comme ça. Ma famille n'était pas une de ces familles qui disait « je t'aime » et tout ça. Alors, je sentais avec cette histoire qu'il y avait quelque chose d'autre qui manquait dans ma vie. Après ça, rien vraiment, mais je trouve qu'à l'âge de 15 ans, 16 ans, quand je venais à Londres et je me lançais sur le monde homosexuel, je ne me rendais pas compte à l'époque, mais en fait, on était légal que pour 7 ans. Parce que la loi a changé en 67.
Oui, jusque-là, les Anglais, reconnus coupables, entre guillemets, d'homosexualité, elle est en prison. Hein, et ça a été le cas d'Oscar Wilde.
Voilà, exactement. Et la loi qui a changé était très ambiguë aussi, parce que la loi parlait des actes privés d'homosexualité et les actes en public. Et la police en profitait beaucoup de cette ambiguïté. Alors, on avait l'impression qu'on marchait sur les traces d'Oscar Wilde, parce que légalement, tout n'était pas fini. Et tout le monde dans ce petit monde PD au début connaissait le nom Oscar Wilde. Pas que les gens éduqués qui étaient à l'université, mais vraiment tout le monde connaissait le nom parce qu'il faisait partie à nous.
Je me demande toujours s'il avait pu voir dans le futur ce qui lui serait passé après la prison et tout. S'il n'aurait pas déchiré cette fameuse carte de visite du Marquis de Queensbury.
Il faut expliquer pour les auditeurs d'Europe 1, et c'est d'ailleurs le départ de votre film, Rupert Everett, puisque vous racontez la vie d'Oscar Wilde après la prison, quand il vient en France, et où notamment il va mourir dans cet hôtel, qui est aujourd'hui un très très bel hôtel, hein, mais qui à l'époque était un hôtel très très délabré pour les pauvres. C'est que Oscar Wilde, au départ, est l'homme le plus célèbre de Londres, vous dites. Hein, il est en train de faire jouer L'importance d'être constant, une de ses plus célèbres pièces. Et puis il a pour amant un jeune homme très beau qui est Sir Alfred Douglas et le père de Sir Alfred Douglas qui est le marquis de Queensbury, celui-là même qui a donné les règles de la boxe, hein, je crois, c'est celui-là, lui donne une carte de visite dans laquelle il le traite de sodomite, voilà. D'homosexuel. Et comme c'est un délit, Oscar porte plainte contre
ce qui s'est passé effectivement, c'est qu'il a laissé la carte au portier du club dont Oscar était membre. Et
donc il le rendait public.
Ça a été rendu public dans ce sens que le portier l'avait mis dans une enveloppe, ce qui voulait dire qu'il l'avait lu et qu'il ne voulait pas laisser traîner cette carte à la réception du club. Donc c'était publié dans ce sens. Et donc Oscar avait pu intenter un procès en diffamation contre le marquis pour avoir publié le fait que pour Oscar Wilde homosexuel.
Mais malheureusement, il va perdre le procès, le marquis sera acquitté et c'est lui qui va
Il n'avait pas perdu, il n'avait pas perdu. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a laissé tomber le procès parce que l'avocat de Queensbury allait sortir tous les petits prostitués, les maîtres chanteurs, les rent boys, comme on les dit en anglais. Et son avocat, à Oscar, lui a dit il vaudrait mieux ne pas subir tout cela, parce qu'une fois dans le domaine public, vous serez probablement arrêté. Et c'est effectivement ce qui s'est passé, parce que le marquis a demandé à son avocat d'envoyer tous leurs témoignages au ministre de l'Intérieur, et Oscar fut arrêté ce soir même.
Total, oui, oui. Effectivement. Alors, vous êtes très bien placé pour le savoir. Pas seulement parce que vous êtes le petit-fils, mais aussi parce que vous avez écrit le procès d'Oscar Wilde, qui est maintenant en poche en France. Vous l'avez lu, Rupert ?
Bien sûr.
On fait une pause. On se retrouve dans un instant à l'hôtel rue des Beaux-Arts, célèbre hôtel qui doit d'ailleurs beaucoup de sa célébrité à son plus prestigieux client qui était Oscar Wilde.
On retrouve Frédéric Taddeï et Rupert Evrette toujours en balade devant un très bel hôtel du 6e arrondissement de Paris.
Nous sommes aujourd'hui en balade avec Rupert Evrette, grand acteur anglais qui sort son premier film en tant que réalisateur, The Happy Prince, sur les derniers jours d'Oscar Wilde après sa sortie de prison. Nous sommes avec Marilyn Holland à l'hôtel de la rue des Beaux-Arts. C'était autrefois un hôtel glauque, c'est aujourd'hui un hôtel magnifique avec une piscine et un hammam. Là aussi, Oscar Wilde n'en reviendrait pas s'il voyait l'hôtel aujourd'hui. Depuis le fait qu'il lui ressemble assez, je trouve que le décor lui plairait. Vous ne pensez pas, Rupert Evrette ?
Pas vraiment.
Non ? Ah, j'étais hors. Pourquoi ?
Ça me fait penser plus des personnages comme Cher que Oscar Wilde.
La chanteuse Cher. Oscar Wilde avait un petit côté Cher à l'époque. Comment vous êtes rencontrés tous les deux ?
Tout à fait par hasard. Les Irlandais m'ont donné une bonne somme d'argent pour faire la protection et le nettoyage du tombeau d'Oscar.
Au Père Lachaise.
Au Père Lachaise, couvert de baisers rouges à lèvres qui menaçaient de détruire la surface du tombeau. Et on avait fait déjà des préparations pour que le ministre de la culture irlandais arrive à Paris pour le dévoiler, pour ainsi dire, aussi bien que son homologue, Frédéric Mitterrand, qui, à la dernière minute, ne pouvait pas venir. Et ma femme me disait, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Elle pensait tout de suite, Rupert Everett.
Pour faire le discours.
Est-ce que tu le connais ? Je disais non, mais on a pris contact par son agent. Et Rupert a même laissé tomber une journée de tournage pour venir à Paris pour me donner un coup de main.
Pour moi, j'étais dans la cinquième année de mon film. J'étais très désespéré.
À l'idée de ne pas pouvoir le produire.
Et j'étais en train de dire, OK, ça suffit. Et j'ai eu ce coup de fil de Merlin. Je pensais, c'est un signe. C'est Oscar Wilde qui me parle directement. Je pensais, allez, c'est le signe. Et je continue. Alors, c'était grâce à ça. Finalement, je laissais tout tomber, bien évidemment, et je suis venu à Paris sur la tombe et j'ai continué.
Je ne savais pas que la tombe d'Oscar Wilde avait comme ça autant de fans, comme celle de Jim Morrison. Au fond, vous savez que d'ailleurs Jim Morrison.
Il est plus populaire. Jim Morrison, c'est Aiken numéro 3.
Ah bon ouais. Et Jim Morrison, vous savez, habitait juste à côté, lui, oui. À l'hôtel de Nice, juste avant de déménager et de mourir.
Oui.
Mais il a vécu un bon moment ici, sans doute en pensant à Oscar Wilde qui n'était
probablement,
pas.
Probablement, oui.
J'ai des sentiments d'ailleurs un petit peu ambigus concernant la protection du tombeau, parce qu'à l'époque, Rupert me disait c'est dommage que ses fans ne peuvent plus embrasser le tombeau, se mettre vraiment à côté d'Oscar, mais chaque baiser, comme je le disais, me coûtait 1 euro parce qu'il fallait nettoyer le tombeau régulièrement. Mais c'est peut-être mieux comme ça, c'est une protection assez discrète. Tu ne penses pas ?
Oui, mais c'est très Oscar Wilde finalement, parce que chaque baiser en fait coûte beaucoup plus que l'on imagine finalement.
qu'il y a eu cette loi scélérate en Angleterre. Vous l'indiquez à la fin de votre film, de The Happy Prince. Il y a 75 000 hommes en Angleterre qui ont, comme Oscar Wilde, ont dû faire de la prison pour homosexualité.
Oui, qui étaient pardonnés en 2017. Que
réhabilitation, c'est seulement l'année dernière, c'est fou.
C'est incroyable, mais c'est aussi pas une réhabilitation vraiment, parce que de pardonner les gens pour quelque chose qu'on avait décidé déjà n'est plus un crime. C'est une impertinence, finalement. Ouais. Je suis sûr que pour Merlin, c'est très chiant.
Ça a touché aussi Alan Turing, le père de l'intelligence artificielle. Mmh, lui, c'était en 1952. Mmh. Il a préféré la castration chimique plutôt que d'aller en prison, mais il s'est suicidé 2 ans après.
Oui, mais pardonner quelqu'un pour quelque chose, ça veut dire qu'il a commis un crime. Et c'est le fait que l'homosexualité a été considérée à partir de 1885 comme un crime. C'est un peu quand même...
Mais que ça l'était encore dans les années 50.
C'est extrême, c'est injuste.
On savait que vous étiez le petit-fils d'Oscar Wilde. Est-ce qu'on vous regardait bizarrement en Angleterre ?
Non, parce que, justement, je portais un autre nom. Ma grand-mère a changé de nom parce que le scandale était beaucoup trop grand. Ça a été reporté dans le New York Times, même, quelques jours après sa mise en prison. Depuis ce moment-là, on garde le nom. Je le dis toujours, je ne changerai pas parce que c'est une reproche à l'ère victorienne pour son hypocrisie, parce qu'il y avait des personnes très haut placées à cette époque qui étaient homosexuelles, qui n'étaient pas mises en prison. Je suis toujours convaincu que Oscar était en quelque sorte le bouc émissaire de cette époque. Il avait transgressé la loi en la mise en prison, mais aussi... Le portrait de Dorian Gray fut cité dans ses procès comme une preuve de son homosexualité. C'est inimaginable. Un livre qu'on donne à nos adolescents aujourd'hui pour leur montrer la force de la bonne prose anglaise, considéré comme livre sodomitique, inimaginable.
On va partir en balade avec Rupert Everett aujourd'hui, en partie sur les traces d'Oscar Wilde. On ira d'ailleurs voir sa tombe au Père Lachaise. Merci Merline Holland d'avoir été avec nous au début de cette émission. Je rappelle que votre livre, Le procès d'Oscar Wilde, on le trouve maintenant en français dans le livre de poche.
Frédéric Taddeï en balade avec Rupert Everett sur Europe 1.
La balade de Frédéric Taddeï et Rupert Everett continue dans le 6e arrondissement. Et alors, vous allez mieux comprendre pourquoi l'acteur anglais parle très bien français.
Nous voilà rue Bonaparte avec Rupert Everett dans Paris, donc sur la rive gauche. Paris, une ville que vous connaissez bien, hein. Vous êtes venu très jeune.
Je suis venu à Paris première fois quand j'avais 16 ans. Ma famille était désespérée à cause de mes habitudes et ils m'ont envoyé.
C'était pas une bonne idée, Paris, c'était pas forcément...
C'était une très mauvaise idée à la fin parce qu'ils m'ont envoyé chez une famille très bourgeoise, boulevard Maurice Barrès.
À Neuilly, donc.
À Neuilly, et la madame m'a demandé d'aller faire une promenade le premier après-midi. Et j'allais dans le bois, très innocent.
Au bois de Boulogne.
Au bois de Boulogne.
Bah oui,
et d'un coup, j'ai vu ce camion avec la musique brésilienne qui venait de dedans. Et le camion faisait bouger et j'étais un peu fasciné. Après un moment, un mec est sorti, a disparu, et après, cette énorme femme, une Amazone, tout en cuir, est sortie du camion. Et j'ai commencé à parler avec elle. Et là, mon vrai séjour parisien a commencé.
Mais est-ce que c'était bien une femme ? Parce que,
Non, c'était un transsexuel.
C'était un transsexuel, hein, déjà ouais. À l'époque.
Et en fait,
Boulogne,
le film que je veux tourner après maintenant, oui. C'est cette histoire. C'est l'histoire de moi qui vient...
Donc à Paris, les années 70, j'imagine, oui. Le Palace...
Club
le
7, plutôt. Le Club 7.
Ah, le 7, oui, c'était oui. Le club de Fabrice Aymer.
Oui, oui, rue Sainte-Anne.
Avant de créer le Palace.
Voilà, donc, ça.
Oui, vous avez dû vous amuser, c'était une belle époque à Paris.
C'était incroyable. Ça m'a vraiment tourné la tête. Parce qu'en Angleterre, à cette époque, toutes les boutiques, tous les restaurants étaient fermés le dimanche. C'était vraiment... Le week-end était très triste. Et Paris, c'était autre chose. Alors, ici...
Alors, nous sommes... Attendez, on est rue Jacob, là, en fait. On est au 38.
Oui, 38.
C'est un restaurant libanais.
Maintenant, c'est un restaurant libanais. avant retourne en
1898-99.
C'est le restaurant où Oscar Wilde allait tous les jours pour déjeuner.
C'est vrai.
Et une histoire très jolie, c'est que quand le père de Merlin est sorti son bouquin sur Oscar Wilde, le fils d'Oscar Wilde, il a reçu une lettre d'un homme. Il racontait cette histoire qu'il allait à l'âge de 7 ans avec sa mère dans ce restaurant, tous les jours en fait, parce que c'était un restaurant où les gens allaient chaque jour. Et un jour, il a laissé tomber le sel sur le sol et sa mère a commencé de l'engueuler. Et l'homme à côté a dit « Non, non, madame, ne l'engueule pas. Vous ne savez jamais quand vous allez le perdre ou le retrouver. » Et il a embrassé le petit garçon qui pleurait. Et après, il a dit quelque chose en anglais que le garçon n'a pas compris. C'était Oscar Wilde. Et il disait en anglais « Mes pauvres fils ».
C'est drôle parce qu'effectivement, à cette époque, il a quitté l'Angleterre en sortant
de prison.
Et il est venu en France et il n'a jamais revu ni sa femme,
n'a jamais
ni
retrouvé,
ses enfants.
Non, personne.
Il n'est jamais revenu en Angleterre.
Non.
Et ce sa mec femme est morte assez vite, d'ailleurs.
En 98. Et ce mec, il a dit, oui, je voulais toujours vous trouver pour dire que votre père pensait toujours à vous.
Mais pourquoi avez-vous eu envie de faire ce film sur Oscar Wilde, sur cette période de la vie d'Oscar Wilde qui est un peu son chemin de croix?
C'est son chemin de croix, c'est sa passion. C'est fascinant comme histoire parce qu'en fait, c'est le portrait du premier out gay homme du temps moderne. Avant lui, l'homosexualité n'était pas vraiment même un mot. C'était sûrement pas une chose discutée par les femmes. Les femmes,
en tout cas en Angleterre. Hein,
mais c'est partout, sûr. Les femmes n'avaient aucune idée de la sexe entre hommes.
C'est d'ailleurs que sa femme, Constance, ne s'en est jamais doutée,
oui,
alors qu'elle a vécu avec lui toute sa vie.
Mais quand tu voyais Oscar Wilde au boulevard Saint-Germain, tu pouvais dire ça, c'est un homosexuel. C'était très important parce qu'une image était donnée, une image fixe sur ce truc. Nomen est numen, il dit en latin. Nommer, c'est de connaître. Et tout de suite après, le chemin vers la liberté homosexuelle a commencé.
Certainement. Vous avez remarqué, Repostevet, le nombre de chansons qui sont consacrées aujourd'hui à Oscar Wilde.
Beaucoup.
Est-ce que vous connaissez celle d'Elton John?
Oui, en fait, parce que j'allais à son concert quand il a lancé cette chanson. Oui, je le connais bien.
On va l'écouter, vous nous direz ce que vous en pensez.
His heart like crucifixion nails, shaking fists and reds gleam. You never stood a chance when the ink ran red on Fleet Street. You turn your eyes to France. Humble, far from Dublin, chased across the way. Sharp enough to slice through every page. Destitute and beaten by the system of the crown. The bitter pill you swallow tastes sweet of going down. And looking back on the great indifference, looking back at the limestone walls, thinking how when the paid to hear you talk. Baccarat and champagne flutes, tobacco from Virginia, long before the Lords and Lord ratted Oscar Wilde a sinner. Looking back on the cold bleak winter, looking back on those long dark days,
c'était Oscar Wilde, Gets Out, interprété par Elton John. On continue notre balade avec Rupert Everett. On va aller vers l'église Saint-Germain-des-Prés, qui est tout près de nous.
Frédéric Taddeï, en balade avec Rupert Everett sur Europe 1.
Franchement, la prime de Noël chez Opel, j'y avais pas cru. Une reprise de 4000 euros minimum pour l'achat d'une Opel? Ça va, mais bon, j'ai pas que 4 ans, quoi. J'ai passé l'âge de croire au Père Noël, hein. Et ben, en fait, il paraît que c'était vrai. Et moi, je suis le seul à y avoir pas cru, le nul, quoi. Elle sera trafiquée, ma voix, hein. Je préfère, merci.
Le Père Noël existe bien. Jusqu'au 24 décembre, bénéficiez d'une prime de Noël Opel de 4000 euros pour la reprise de votre véhicule et l'achat d'une Opel neuve en stock identifié. Offre non cumulable réservée aux particuliers. Conditions sur opel.fr.
Avec Conforama, Noël est plus beau.
Quand vous n'avez qu'un seul cadeau pour faire l'unanimité,
nous, on propose la télé connectée Samsung 138 cm Ultra HD à 699 euros.
Et à ce prix-là, c'est toute la famille qui va en profiter.
Conforama, jusqu'au 24 décembre. Magasin ouvert aujourd'hui. Liste et conditions sur conforama.fr.
Il y a les vins très... Et puis, il y a le Bordeaux qui se fait remarquer. Blaye Côte de Bordeaux. Authentique et convivial, Blaye Côte de Bordeaux a une touche d'audace en plus. Attention, l'AOC Blaye Côte de Bordeaux peut vous faire changer de regard sur le Bordeaux. Blaye Côte de Bordeaux, remarquable. Pour la santé, attention à l'abus d'alcool.
Carrefour.
Chez Carrefour, il y a 10 euros en bon d'achat tous les 30 euros d'achat sur tous les alcools. Non mais c'est dingue, 10 euros en bon d'achat sur tous les alcools. Résultat des courses, c'est qui le roi des économies? C'est moi.
Jusqu'à ce soir, avec votre carte Carrefour, dans vos hypermarchés Carrefour et leur drive, profitez de 10 euros en bon d'achat tous les 30 euros d'achat sur tous les alcools. Vos magasins sont ouverts aujourd'hui. Carrefour.
Hors vin, bière, cidre, mousseux et champagne, offre limitée à 90 euros d'achat. Bon d'achat valable du 10 au 16 décembre, hors carburant, drive et service. Modalité magasin participant est ouvert aujourd'hui sur carrefour.fr. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
Jusqu'à midi et demi, Frédéric Taddeï revient sur la carrière de l'acteur Rupert Everett en se baladant dans les rues de Paris.
Nous sommes dans la rue Bonaparte avec Rupert Everett. Rupert Everett, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut pour réussir à Hollywood? Vous avez connu Hollywood intimement, vous l'avez raconté d'une manière extrêmement drôle dans votre autobiographie qui est intitulée en France « Tapis rouge et peau de banane ». Qu'est-ce qu'il faut pour réussir?
En Hollywood?
Oui.
Il faut être diplomate.
Que vous n'êtes pas toujours.
Il faut... vraiment, pour être un grand star, il ne faut pas être un PD. Ça, c'est sûr.
Mais ça vous a coûté cher, à vous. Hein.
On ne peut jamais dire combien ça coûte, parce que tu peux mettre dedans aussi si on est bon acteur ou pas, ou si oui. On est assez beau ou pas. Mais non, ce n'est pas idéal.
Le bruit qu'on entend, là, ce sont les travaux. Hein. À Paris, il y a tout le temps des travaux.
Oui, à Londres aussi. L'homophobie en Hollywood maintenant, je crois que c'est...
Attendez, on va passer sous les échafaudages. Nous voilà sur la place Saint-Germain-des-Prés, tout à coup, il y a moins de bruit. Vous parliez de l'homophobie qui règne...
Oui, l'homophobie n'est pas un truc... c'est pas vraiment un truc violent, c'est juste un mindset du boys club hollywoodien et dans notre
mindset,
business.
C'est-à-dire qu'on y pense.
Oui, comment les gens réagissent.
Ouais.
Et pour eux, si quelqu'un comme Sean Penn, il veut jouer un homosexuel passif très folle au cinéma, c'est courageux,
il va gagner tout.
Il va gagner tous les awards, mais ils peuvent pas imaginer ces mecs hétéros. Qu'un PD veut baiser avec une femme.
Oui, il pense que vous ne pouvez plus jouer que des rôles de oui. Meilleur ami homo.
Oui.
Ce qui voilà. Vous est arrivé, en fait, oui. Dans le mariage de mon meilleur ami avec,
oui.
Avec Julia Roberts et Cameron oui. Diaz, ou dans un couple
avec
presque
Madonna.
Parfait. Oui. C'était ça avec Madonna, c'était le cas à chaque fois.
Oui, mais le problème, c'est que je ne pouvais pas aller plus loin.
Ouais.
Et pour avoir une carrière, tu ne peux pas jouer la même chose tous les jours, parce que... Ça va faire chier
surtout
tout le monde,
si en
tout
plus
le
les acteurs hétéros veulent aussi jouer le rôle du meilleur ami homo. Ouais,
après ça, après tous les hétéros voulaient mon rôle à moi. Alors j'avais rien qui
si,
me restait.
Si, vous avez joué un rôle de transsexuel.
Transsexuel, oui.
Une fois.
Oui, et ça maintenant je ne peux plus faire non plus. C'était pour ça que j'étais obligé d'écrire moi-même mon véhicule.
Mais vous
moi.
Avez beaucoup écrit de scénarios au moment où justement vous êtes une grande star à Hollywood, au moment de ces deux films notamment. Vous leur avez vendu quand même un scénario pour un James Bond gay.
Oui, oui, oui.
Que vous auriez interprété, je trouve que l'idée était formidable.
Et c'était une bonne idée. C'était là où j'étais très, très con. Parce que j'arrivais jamais suivre mes rêves. Ça, oui. C'est la première fois que j'ai réussi à continuer à attaquer quelque chose.
Oscar Wilde, oui. Vous avez mené jusqu'au bout. Oui. Vous étiez peut-être trop dilettante pour Hollywood. Oui. Hollywood, il faut être obsédé par ce qu'on
et
veut.
Et je crois que tu penses toujours, jusqu'à l'âge de 45 ans, 50 ans, que tu as plein de temps devant vous. Et d'un coup, tu te rends compte que tu n'as pas beaucoup. Et chaque opportunité est peut-être le dernier. Et là, tu deviens plus sérieux.
J'aimais beaucoup, je crois savoir, dans le scénario de James Bond, Homo, que vous aviez écrit, c'est qu'on le surnommait Jane Bond.
Oui.
Et en même temps, c'est un film très violent, aussi violent
que
James Bond habituel.
Oui, oui, plus violent. Ouais. Moins violent.
Oui, c'est vraiment regrettable qu'il ne l'ait pas fait. J'aurais adoré ce film.
Et maintenant, je suis trop vieux.
Pas forcément trop vieux. La dernière fois que Sean Connery a joué James Bond, il avait votre âge.
Ah oui, non, mais moi, je devrais faire des choses. Par exemple, ça a commencé à San Francisco. Je faisais un truc au skateboard avec plein de serveurs chinois qui m'attaquaient avec les... je ne peux pas faire ça. Mes genoux ne marchent
plus. C'est fini. On va traverser, on va vers l'église Saint-Germain-des-Prés. Qu'a-t-elle de particulier, à part le fait que c'est l'une des plus vieilles églises de Paris? Elle date de l'an 1000, en tout cas une partie de cette église date de l'an 1000. C'est une des plus remaniées aussi. Pourquoi avez-vous envie d'y aller?
Parce que c'était ici où le cercueil d'Oscar Wilde est venu après sa mort. Et le funèbre était dans la petite église à côté ici.
Ils l'ont amené jusqu'ici avant qu'il parte pour le Père Lachaise. On était en 1900 à l'époque. Hein. On se retrouve juste après une pause à l'intérieur de l'église Saint-Germain-des-Prés avec Rupert Everett.
Frédéric Taddeï et Rupert Everett sont maintenant dans une des plus belles églises du 6e arrondissement. Et vous allez entendre que l'acteur a une idée bien à lui du catholicisme.
Et voilà dans l'église Saint-Germain-des-Prés. Elle aussi est en travaux. Tout Paris, je vous dis, est en travaux.
C'est un désastre.
Donc c'est tout blanc, il y a des bâches, et tout à coup l'église apparaît. Vous êtes toujours bouddhiste, Rupert Everett?
Non, je ne suis rien, mais j'adore le bouddhisme. Mais je suis toujours fasciné par le catholicisme aussi.
Pourquoi?
C'est parce que c'est tellement destructif.
vous trouvez?
Ah oui, pour moi, beaucoup. Parce que être catholique et aussi être homosexuel, c'est pas un bon mélange. Parce
ah bon
que, non, ils te font sentir toujours coupable.
Et les protestants, moi?
Non, pas du tout. Les protestants, c'est pas une religion sérieuse. Vraiment.
Vous avez grandi chez les moines.
Oui.
C'est eux qui vous ont élevé à la dure.
Oui, non, ils étaient très gentils, très sympathiques. Ils aimaient beaucoup boire. Et non, c'était plutôt sympathique.
Alors, c'est une église très colorée, l'église Saint-Germain-des-Prés. Il y a des rouges magnifiques, les colonnes sont rouges. Il y en a d'autres qui sont bleues, turquoises.
Parce que maintenant, ça, c'est presque la seule église qui est refaite comme ça. Mais avant, toutes les églises
étaient comme ça, aussi colorées.
Ouais, c'est incroyable. Ouais. J'ai pas vu tout ça.
Alors ici, il y a du roman, il y a du gothique, il y a un peu de tout. Hein. Vous savez que pendant la Révolution, elle avait été fermée, cette église. C'est devenu une usine de salpêtre.
C'est vrai?
Oui.
Non, c'est bien, c'est très beau. Et l'enterrement d'Oscar Wilde s'est passé là.
Là?
Mm-hmm. Dans la petite église.
Donc au fond de la nef.
Avec très peu de gens.
Tout ça, on le voit dans votre film.
Hein. Oui.
Dans The Happy Prince. À quoi fait allusion le titre que vous avez choisi? C'est un texte d'Oscar Wilde.
C'est un roman pour enfants d'Oscar Wilde. C'est sur une statue couverte d'or et avec les bijoux. Qui rencontre une hirondelle. Et c'est la conversation entre l'hirondelle et le prince heureux. Et le prince heureux demande à l'hirondelle de prendre tout l'or et tous les bijoux et donner aux pauvres. Et finalement, le prince heureux est tout nu et détruit. Et le maire de la ville le fait tomber et le met sur le trash. La poubelle, dans la poubelle, ouais. C'était pour moi une bonne idée. C'est ironique d'appeler Oscar Wilde le prince heureux. Parce que dans une façon, il était heureux à Paris. Il n'était pas victime.
Non.
Il a construit son propre constitution dans la rue. Il a remplacé les vedettes et les nobles avec les petits criminels et les prostituées. Mais il faisait le même spectacle. Il amusait tout le monde. Il racontait des histoires. Il était curieux. Son sens d'humeur n'était jamais cassé.
Il y a une scène dans votre film, d'ailleurs, qui se passe à Dieppe.
où il est obligé de s'enfuir
des
pour
mecs,
chasser ouais. par des jeunes Anglais touristes.
Mais ça se passait tout le temps pour lui.
Oui, ça avait l'air terrible, ce harcèlement dont il a été victime. Vous racontez aussi, vous montrez une autre scène où il est à la gare, transféré d'une prison à une autre. Et on le laisse là subir les quolibets de la foule anglaise qui l'insulte, qui lui crache dessus. Ils savent tous que c'est Oscar Wilde. Qui a été idolâtré.
Oui. Lui qui était très célèbre, qui amusait tout le monde avant, après il était l'homme le plus détesté. C'est pour ça qu'il est très comme Jésus en fait.
Mais quand il est pourchassé par ces jeunes Anglais à Dieppe et qu'il se réfugie dans l'église où ils viennent le retrouver, il les tabasse. Hein, comme il est fou dehors, il était fort.
Non, mais c'est comme je dis, c'était pas un victime comme on imagine les choses maintenant. Parce que maintenant, on s'obsède sur notre victimité.
Oui, c'est vrai que la victime est un peu le héros des temps modernes.
Oui, ça trompe tout.
Vous savez qu'ici, on marche sur beaucoup de cadavres. Il y a plein de gens qui sont enterrés sous les dalles de cette église. Il y a René Descartes qui repose ici sous une dalle funèbre.
C'est vrai ?
Dans l'église Saint-Germain-des-Prés.
Non, mais j'adore cette église.
C'est vrai qu'il n'y en a pas des comme ça en Angleterre.
Moi non, parce que les églises protestantes sont complètement différentes. Ce sont comme les salles d'administration. Ils sont moins gothiques.
Plus austères. Voilà. Ouais. Pas tous ces tableaux, ces vitraux, ces couleurs.
Moi, ces couleurs, je crois que c'est récent. Parce qu'ils remettent comment c'était dans le Moyen-Âge. Et nous aussi, on commence à faire ça avec nos églises gothiques.
Rupert Everett, est-ce que vous savez quel était le plus grand tube à l'époque où Oscar Wilde était à Paris, à l'époque de votre film? Et notamment en Italie, quand il part en Italie avec Alfred Douglas, qu'est-ce qu'il écoutait à votre avis à cette époque-là?
Mais dans mon film, il adorait une chanson qui s'appelle « The Boy I Love is Up in the Gallery ». Le garçon que j'aime me dit bonjour de la galerie.
Ce n'est pas cette chanson que je pensais, c'est « A Sole Mio », la chanson napolitaine.
C'est vrai.
C'est le Caruso qui va la populariser. Ouais.
Lui aussi qui a fait le funiculé.
Et je me suis dit qu'on pouvait l'écouter, mais là, dans la version de Mario Lanza, elle est plus récente. Mais ça devait ressembler à ça quand il l'écoutait.
Bella cosa, una giornata e sole, un'aria serena dopo una tempesta, per l'aria fresca, pare già una festa. Che bella cosa una giornata di sole, ma di sole più bella in me, oh sole mio, sto in fronte a te.
Mario Lanza qui chantait O Sole Mio,
une chanson...
Au sodomio.
Non, au sole mio. Le tube de la fin du 19e siècle. Une chanson qui a fait le tour du monde. Même Elvis Presley a fini par la chanter. Il en a vendu 20 millions d'exemplaires. Mais lui, il l'avait traduite en anglais.
Du 6e arrondissement, on va passer au 20e pour la suite de la balade de Frédéric Taddeï et Rupert Evrette. Et ils ont plein de choses à se dire en route.
Nous voilà de retour sur la place Saint-Germain-des-Prés avec Rupert Evrette. On va prendre un taxi pour aller vers le cimetière du Père-Lachaise.
On va à la station alors ?
Oui, on va aller vers la station.
Station et vers le brasserie Lip.
Vous avez dit, je crois que c'était dans votre autobiographie, vous disiez à propos de Hollywood que dans ce monde de mal qu'est le cinéma hollywoodien, les stars féminines comme Madonna, Julia Roberts ou Sharon Stone, que vous avez bien connues également, sont au fond les seuls vrais hommes. Alors c'était juste une coquetterie littéraire parce que vous écrivez bien ou parce que vous le pensez vraiment ?
Et j'ai beaucoup de respect pour les femmes qui
réussissent dans ce métier là-bas.
Réussissent dans le spectacle américain. Parce que ou tu te fais baiser ou tu baises les mecs. Ces femmes avaient ce côté masculin.
Déterminé,
parce que sinon, ce monde masculin, ce boys club dont on a parlé avant, c'est très fort et finalement destructif. Parce que les filles, c'était très compliqué pour les filles, je trouve.
On passe devant les deux magots, là il y a le café de Flore, on est en plein centre du Paris existentialiste qui n'existe plus depuis
et
longtemps.
Et ici, le café de Flore, quand je venais ici à Paris au début, en 1975, ça c'était le centre
de Paris
encore, pour tout.
Et d'un Paris littéraire, artistique.
Homosexuel
aussi.
Dragué et tout.
Mais vous-même, vous le racontiez dans votre autobiographie, vous avez eu des aventures avec ces femmes, parfois même des vraies histoires d'amour.
Plein.
Vous en parliez avec Suzanne Sarandon, avec Béatrice Dalle, avec Paula Yates. Même avec Madonna, vous auriez dû le faire savoir. On vous aurait redonné des rôles d'hétéro, peut-être, à Hollywood.
Oui, parce que j'avais beaucoup plus d'expérience de certains de ces... de ces hétéros qui se branlaient seulement sur ces idoles.
Comme c'est gentiment dit, Rupert Everett, vous qui êtes si bien élevé, est-ce qu'il vous arrive d'être aussi grossier en anglais ou d'être seulement en français?
Non, c'est que en français.
On va traverser le boulevard Saint-Germain. Le monde artistique, au fond, j'ai l'impression que vous l'avez trouvé très bourgeois. Au fond, il ressemblait assez au monde dans lequel vous avez grandi.
Mais moi, je ne connaissais pas beaucoup dans le monde artistique.
Oui, parce que le monde que vous décrivez ici, celui du café de Flore, homosexuel, etc., ce n'était pas le monde artistique.
Non, mon côté de ce café, non. C'était plus boîte nuit.
Oui. Et là où, effectivement, c'est le non-conformisme qui règne.
Oui.
Alors que dans le cinéma, c'est souvent le contraire. C'est souvent le conformisme qui règne.
Oui, et c'est ça que moi, ça m'a pris plein... beaucoup d'années de comprendre ça, parce que moi j'avais imaginé que le spectacle va être comme le 19e siècle, très ténébreux, plein de drogue, plein de sexe, tout. Mais en fait, ce n'est pas vraiment comme ça, c'est plutôt militaire et bourgeois.
Et je me souviens que dans votre livre, vous disiez au fond que les deux seuls que vous aviez trouvé vraiment vrais, c'était Béatrice Dalle et c'était Bob Dylan.
Oui, Béatrice Dalle est quelqu'un...
Et elle joue dans votre film, d'ailleurs.
Elle joue dans notre film. Elle était très gentille de jouer dans mon film. Mais dans mon film, tu peux voir exactement le genre d'acteur qu'elle est. Parce qu'elle domine, sans faire rien. Elle est votre meilleure actrice pour moi. Et elle a une personnalité épatante.
Bob Dylan n'était pas un très bon acteur. Hein. Vous avez joué un film avec lui.
Oui, il n'était pas un très bon acteur, mais il avait quelque chose... Il était fascinant d'être à côté de lui, évidemment.
Oui, et pour cause. Et il y a une belle affiche pour The Happy Prince. Vous jouez évidemment le rôle d'Oscar Wilde, mais il y a également Colin Firth, avec qui vous avez débuté quasiment dans Another Country,
oui.
et qui lui est devenu une grande star aussi.
Oui. Et moi, je suis quasiment dans le film. C'est intéressant parce qu'au début, dans Another Country, c'était moi qui sortais bien du film.
C'était vous la star.
Et maintenant, dans mon film, on rigolait beaucoup parce que moi, je suis mort dans le lit presque et lui, c'est le grand star. Mais c'est bien, c'est la vie.
Il y a Tom Wilkinson, il y a Emily
Watson.
Il y a Emily Watson. Il y a d'autres. Qui est ce garçon qui joue Sir Alfred Douglas? Il est très beau lui aussi. Hein.
Il s'appelle Colin Morgan et c'est un acteur irlandais très très fort. Mais aussi, il y a un acteur français jeune, Benjamin Voisin, qui aussi, pour moi, était extrêmement bien comme acteur. J'adorais travailler avec lui aussi.
Vous avez tourné à Paris?
Non, parce qu'on n'arrivait jamais à trouver les sous français. Et sans les sous français, tu ne touches pas sur les subventions français, alors c'est trop cher.
Où est-ce qu'on peut le mieux, le plus facilement reconstituer Paris d'autrefois, aujourd'hui?
Ben c'est compliqué, parce que même à Paris, c'est compliqué aussi.
Oui. À une époque, on allait en Bulgarie, on allait à Sofia, il y a des grands studios là-bas, et c'est souvent
si
là qu'on tournait.
Si tu as de l'argent pour les studios, ça va, mais moi, je n'avais pas de l'argent. J'avais de l'argent en Belgique, qui j'avais de la chance à ça, mais aussi à Bruxelles, il y a très peu d'architecture qui ressemble à la France. C'est plutôt flémish. Et aussi en...
Flémish, c'est flamand. Hein.
Flamand. Et en Allemagne, où j'avais le moitié de l'argent et je devrais tourner la moitié du film, évidemment, l'architecture ne correspond pas du tout avec
du monde.
Ni Haussmann, ni 18e siècle, ni 17e. Alors ça, c'était mon plus grand problème.
Et ça ne se voit pas du tout, parce qu'on a vraiment l'impression d'être à Paris en 1900, dans Siam Pupins, comme on a l'impression d'être à Dieppe.
On était à Trouville, quand même.
Trouville, ça ressemble à Dieppe en 1900. Nous sommes devant la brasserie Lip, et on va prendre un taxi pour aller au Père Lachaise, là où a été enterré Oscar Wilde, et pas seulement lui, bien entendu.
Europe 1, en balade avec Rupert Evrett, Frédéric Taddeï.
Nous sommes en balade avec Rupert Evrett aujourd'hui et nous voilà au cimetière du Père-Lachaise, un cimetière qui compte 70 000 tombes. Et parmi ces 70 000, et il y en a 4 ou 5 qui vous intéressent, je crois, hein, Rupert Evrett. Et là, on est devant celle de Colette.
C'est intéressant de voir la tombe de Colette parce qu'il sort un film maintenant, un film anglais sur la vie de Colette, tout en anglais. Les jeunes travailleurs dans le film parlent avec les accents cockney.
Oui. Et Colette, les accents cockney, c'est l'accent de Londres. C'est
l'accent de Londres. Et Colette, elle parle avec l'accent upper class anglais. Et pour moi, c'est étrange. Et c'est pour ça que dans mon film, je voulais, quand ça parlait en français, parler en français.
Ce qui est le cas, oui, dans The Happy Prince.
C'est le cas dans
le film sur Oscar Wilde, dans lequel vous jouez Oscar Wilde. Les Français parlent français, les Anglais parlent anglais. Vous savez que l'Église lui avait refusé un enterrement religieux à Colette.
C'est vrai? Pourquoi?
Oui, parce qu'elle avait été divorcée, elle avait une vie dissolue.
Ah d'accord, oui, oui.
Elle avait fait du striptease, elle avait vécu avec une femme. Mais la République française lui a fait des obsèques nationales.
Ouais.
Vous voyez, nous aussi, on a eu nos injustices. Il n'y a pas que l'Angleterre avec Oscar Wilde. Alors racontez-moi Orson Welles, parce que votre premier film, vous avez failli le faire avec Orson Welles. Malheureusement, à l'époque, il n'arrivait plus à monter ses films.
Oui, il m'appelait un jour, d'un coup, comme ça, à la maison. Il m'a proposé de faire ce film.
C'était quoi?
C'était sur sa vie dans le théâtre dans les années 20.
Ah oui, vous auriez joué le rôle d'Orson Welles,
oui,
jeune.
Je devrais jouer Orson Welles. Il m'a fait venir à Los Angeles, mais la tragédie était que j'étais tellement embarrassé depuis le début. Le premier jour, j'allais manger avec lui dans un restaurant et je me suis assis sur son chien. et le chien m'a mordu. Mais après, en fait, le fils de... Comment il s'appelle? Le fils de Jean-Pierre... Jean-Pierre Aumont existait.
Oui, c'était Jean-Pierre Aumont, c'était un acteur français.
Voilà, son fils était l'assistant de Oscar Wilde.
Et de Orson Welles.
D'Orson Welles. Et le premier jour que j'étais avec Orson Welles, Patrick, le fils de Jean-Pierre, était là aussi. Et je connaissais Patrick un peu déjà. Et Patrick allait serrer la main d'Orson. Et il disait, OK, Orson, je m'en vais, parce que nous, on était tous les deux pour déjeuner. Et Orson a dit, oh, don't shake my hand. Last time you shook my hand, you nearly broke my finger. Et nous, on pensait que c'était une blague. Et après, Orson Welles commençait à se fâcher. No, I'm sure you fucking broke my finger. Get out of here. Et moi, je t'ai laissé avec lui tout seul après que Patrick est parti. Et je pensais que au moins Patrick va rester pour le déjeuner. Et non, il était viré comme ça. Et après ça, je savais que je devrais être un de ces gens qui pouvaient parler et rigoler. Je ne pouvais pas.
Oui, il pouvait changer d'humeur rapidement.
Petit à petit, j'ai vu que je lui ai déprimé. Son idée de m'avoir n'était pas bon. Et petit à petit, le film
ne s'est pas fait comme
ne s'est pas fait comme tous les films.
C'est un endroit très romantique, le Père Lachaise. On voit souvent des jeunes couples qui se promènent,
oui,
qui s'embrassent dans les allées. Où vous en êtes, vous, avec la mort ?
J'adore. J'adore les chambres de mort. Une des raisons que j'adore le mort de Oscar Wilde, c'est l'idée de cette chambre
dans cet hôtel.
Cet hôtel ringard, odeur de chiottes et sueur, avec les voix des voisins à côté. Et
lui, vous aimez bien les odeurs de sueur aussi. Je me souviens de ça dans votre autobiographie. Vous parliez des odeurs de sueur de telle ou telle actrice. Vous trouviez, mais que ce n'était pas une critique, c'était pour dire que
c'était
très
agréable. Non, moi j'aime bien l'odeur de sueur. Moi, je ne suis pas très pour parfum.
Ah oui ?
Non, je n'aime pas.
Vous voulez vous faire enterrer où, vous ?
Je ne veux pas me faire enterrer.
Non, incinérer ?
Non, même ça, pas ça. Mon idée, c'est de me mettre au sauvage et de me faire bouffer.
Ah oui. C'est pour ça que vous dites souvent que vous voudriez finir vos jours en Amérique du Sud.
Oui, parce que je vis avec un Brésilien. Mais non, maintenant, je préfère, je ne sais pas, la montagne pour moi.
Pourquoi la montagne ?
J'aime bien la montagne, j'aime bien marcher.
Oui, mais quand on est mort.
Parce que si, par exemple, tu vis en Suisse, tu peux avoir la mort assistée à la maison.
Ouais, et la montagne.
Et la montagne en même temps.
Voilà, chemin Lauriston, c'est la 16e division du cimetière du Père Lachaise, un cimetière du Père Lachaise toujours aussi fréquenté, toujours aussi habité.
Ooh. Oh my God, this is au Bataclan.
Ah. Ah oui, c'est quelqu'un qui est décédé au Bataclan.
Oh là là.
Et là, nous voilà. Alors là, il y a des barrières, il y a des gens, il y a des fleurs, évidemment. C'est la tombe de Jim Morrison.
C'est lequel ?
Là ?
Hein ?
Vous l'aviez jamais vu, la tombe de Jim Morrison ?
Non.
C'est toujours l'une des tombes les plus fleuries. On ne peut pas l'approcher, il y a des barrières de sécurité, parce que sinon...
Et concession à perpétuité, ça veut dire que lui, il peut rester tout le temps.
Oui. Qu'est-ce qui vous intéresse chez Jim Morrison, vous ?
Rien. Non, je me suis jamais attaché à Jim Morrison.
Ah bon ?
Non.
C'est pas de chance, parce que j'allais mettre Riders in the Storm.
J'aime Riders in the Storm, si. Mais lui, non.
Pourtant, il y avait un petit rapport avec Oscar Wilde.
Oui. Et il vivait à côté,
oui,
à la fin.
Dans la rue des Beaux-Arts, enfin, c'était pas au même moment, mais non. Là, à l'hôtel de Nice, là, l'autre à l'hôtel tout court.
Oui.
Et bon, on va écouter Riders in the Storm.
Into this house we're born. Into like a dog without a bone, an actor out on loan, riders on the storm. There's a killer on the road, his brain is squirming like a toad. Take a long holiday, let your children play. If you give this man
Riders in the Storm, interprété par Jim Morrison et les Doors, une chanson qu'aime bien Rupert Everett.
Frédéric Taddeï a décidé d'emmener aujourd'hui l'acteur anglais Rupert Everett en balade dans Paris, et on les retrouve d'ailleurs dans le plus grand cimetière parisien.
Nous sommes toujours dans le cimetière du Père-Lachaise, un jardin de pierre hérissé de statues, de monuments, il y a beaucoup de fleurs, il faut monter, descendre, il y a des pavés, un endroit que moi j'adore. Vous aimez cet endroit?
J'adore, je trouve que c'est...
Là ce sont des corneilles qu'on entend, on pourrait croire que ce sont des corbeaux, mais ce sont des corneilles.
Ouais. Non, c'est très impressionnant, on n'a pas ça en Angleterre vraiment, on a un cimetière à Londres mais qui est détruit complètement, ici et en Italie aussi il y a des cimetières.
Oui, avec des bougies, avec des...
Mais je préfère sans bougies, comme ici. Ici, c'est plus sombre, plus ténébreux.
Et en même temps, j'ai l'impression que tous ces noms gravés sur les dalles de marbre, sur les pierres tombales, toutes ces images, les gens sont assez présents.
Tu trouves ?
Oui, il me semble, oui.
Moi, j'imagine tous avec les ongles de pied très longs. quoi d'autre ? Les cheveux continuent ?
Oui, il paraît.
Quand ils ont trouvé le corps de Lord Byron en Angleterre, il est mort en Grèce et ils ont mis en alcool pour rentrer en Angleterre. Et en 1934, de prêtre lui a ouvert la tombe. Et son corps était parfait et il avait une énorme érection. Mais tout de suite, c'était...
C'est parti.
C'est parti. C'est comme ça l'érection. Au bout d'un moment.
Nous voilà
finalement
tout près de la tombe de Marcel Proust.
Oh.
C'est ici.
Ouf.
Voilà, on est devant
la tombe.
La pierre tombale, elle est noire, avec une croix. C'est quoi cette croix ? C'est une croix de Malte, me semble-t-il.
C'est comme la croix de Malte ou quelque
oui,
chose comme
ça. Il y a un cœur fait avec des marrons,
oui.
Vous remarquez.
Oui. Et c'est assez humble.
Oui, je crois qu'elle avait été abîmée, paraît-il, par une explosion
d'une tombe voisine. Il y avait eu un attentat contre une tombe voisine. Je me souviens de cette histoire. Je ne sais pas du tout si elle est vraie. Et que non, on aurait dû refaire la pierre tombale de Marcel Proust.
Et oui, et sa mère et son père est là aussi. Ou c'est ouais. peut-être le frère, Robert.
Je me souviens que vous aviez dit dans une interview, on vous demandait ce qu'on dit, on demande souvent aux vedettes, qu'est-ce que vous emporteriez sur une île déserte. Vous aviez répondu l'intégrale de Proust.
Ça, c'est dans un moment très prétentieux. Je préfère du Poppers.
Vous aviez ajouté du Poppers.
Ah oui, d'accord.
Et on peut le dire, puisque maintenant, le Poppers est légal en France. On en trouve dans les bureaux de tabac. Donc, voilà, mais ça devait être pour accompagner la lecture de Proust. C'était le Poppers. Et donc, vous aimez beaucoup Proust, non ? Quel rapport Proust avec... Est-ce qu'ils se sont rencontrés avec Oscar Wilde ?
Il s'est rencontré une fois et ça n'a pas passé bien. Oscar Wilde venait dîner avec Proust et d'un coup, après 5 minutes, Oscar Wilde a quitté la table et est parti de la maison parce qu'il trouvait que Proust était trop déprimant. Et ça, c'était leur seule rencontre. Mais pour moi... Et pour mon film, je crois que lire Proust et toutes ces idées de la mémoire en Proust, j'ai piqué parce que c'est incroyable ça.
Et son rapport à l'homosexualité et à la mort d'ailleurs.
Mais son rapport à l'homosexualité n'est pas brillant parce que lui, il s'est caché tout le temps jusqu'à la fin. Vraiment, même dans le bouquin, ses amants sont déguisés en femmes. Toujours,
oui.
Qui est un peu étrange, mais quand même, c'est quelqu'un de fascinant.
Il paraît que sur la tombe de Marcel Proust, devant laquelle nous sommes, souvent les gens lui posent des madeleines.
Oui, mais ils sont là maintenant. Et lui, sexuellement, il était très bizarre aussi, parce qu'il y avait toujours ces rumeurs que lui, il aimait voir un rat se faire assassiner dans le bordel, et pour faire monter l'esprit, disons.
Je comprends, vous vouliez l'emmener sur une île déserte.
Europe 1.
On se retrouve dans un instant avec Rupert Everett. On va marcher vers la tombe d'Oscar Wilde qui se trouve évidemment au Père-Lachaise.
Frédéric Taddeï en balade avec Rupert Everett sur Europe 1.
La balade de Frédéric Taddeï et Rupert Everett est sur le point de finir, mais il y avait un endroit par lequel ils étaient obligés de passer au vu du premier film de l'acteur-réalisateur.
Nous arrivons à la fin de notre balade avec Rupert Everett. Nous sommes au cimetière du Père Lachaise. On approche de la tombe d'Oscar Wilde, qui est le héros du premier film réalisé par Rupert Everett, The Happy Prince. Rupert Everett joue le rôle d'Oscar Wilde pendant les dernières années de sa vie, qu'il passe à Paris, mais aussi en Italie. Et il finira dans le dénuement, à l'hôtel, celui de la rue des Beaux-Arts, où nous avons commencé cette émission. J'ai l'impression que chez Oscar Wilde, ce que vous préférez, c'est sa vie, plus que son œuvre.
Non, j'adore ses œuvres, et pour moi, ses œuvres, j'avais beaucoup de la chance avec ses œuvres.
Vous avez souvent interprété au cinéma ou au théâtre ?
Au théâtre, j'ai eu beaucoup de la chance. Je les adore, mais non. Pour moi, la chose qui me fascine, c'est son personnage, c'est vrai. Et aussi, cette idée des grands stars qui deviennent trop aveugles avec la célébrité pour voir comment c'est le monde. J'adore ça.
Et il est obligé de le regarder, le monde, à la fin, quand il n'est plus rien.
Oui, parce qu'il a tout perdu à cause de ça. Et je trouve ça touchant, fascinant, excellent. J'adore. Sa souffrance est incroyable. Sa vie ici à Paris est incroyable. Et c'est ça que je trouve Oscar Wilde entièrement, l'écriture et sa vie. C'est ça l'œuvre d'art.
Je me souviens de vous, et beaucoup de Français se souviennent de vous, Rupert Everett, dans l'adaptation des Liaisons dangereuses qu'avait fait José Dayan. Vous jouiez Valmont, Catherine Deneuve jouait Madame de Merteuil. Il y avait une formidable distribution. C'était comment, ce tournage ?
C'était incroyable, parce qu'en fait, c'était très Me Too avant de Me Too, parce qu'en fait, c'était un film gouverné par les femmes. Il y avait José Dayan, Catherine Deneuve.
Il y avait Anastasia Kinski.
Catherine, le chef d'opérateur aussi.
Ah, c'était Caroline Champier-Brive.
Oui, et elles étaient toutes les femmes très, très fortes. Et nous, les hommes, on était autour terrifiés d'eux. C'était bien. C'était très drôle. On était en Écosse, on était à Montréal, on allait partout avec ce film. Et José Dayan est un personnage fascinant.
Vous avez déjà vu la tombe d'Oscar Wilde, parce qu'on la voit dans le film, mais j'imagine que vous n'avez pas tourné ici.
Non. Et le tombe qu'on a vu dans le film, c'est la première tombe qu'il a eue. C'est dans un cimetière à Bagneux.
Oui, c'est vrai que depuis, il y a eu un...
En 1914, il était
un sculpteur américain
ici.
Lui a fait un monument. Il a sculpté Epstein dans un bloc de plusieurs tonnes.
Et l'ange avait des énormes... On dit rapettes.
Des énormes testicules.
Testicules.
La voilà.
Pour les premiers 3 ans, le mairie a fait couvrir le truc pour les habiter. Et après, ils ont mis un leaf. Comment on dit ? Un feuille. Tu vois
les testicules, mais elles ont été cassées. Vous savez dans quelles circonstances ?
Dans les années 60, deux femmes anglaises ont venu. Ils ont cassé
les testicules.
Les testicules. Et les testicules, finalement, ils se sont trouvés dans le bureau. Oui, du presse-papier, ici.
Le conservateur du musée, oui, on connaît la même histoire. Et là, aujourd'hui, il y a une plaque de verre qui empêche de s'approcher trop de ce monument.
Oui, parce que c'était trop...
Il y a des livres, il y a le portrait de Dorian Gray, il y a des roses, beaucoup de fleurs.
Et beaucoup de tickets de métro.
Des tickets de métro, oui. Et... Et ça représente un ange et un démon, hein, je crois. Ange-démon volant, c'est le nom de la sculpture. Une sorte de sphinx, c'est fait très bien. C'est à lui qu'on a cassé les testicules. Donc.
Et c'est quand même incroyable pour 1905.
Oui, cette sculpture.
Oui. Ouais.
Et c'est incroyable qu'en 1961, on ait encore trouvé deux Anglaises pour casser les testicules de la tombe d'Oscar Wilde.
Maintenant,
ils ne laisseront jamais en paix.
I love... Oui, ça, c'est chiant aussi. Qu'est-ce qu'elle dit ? I love who ?
Il y a un message.
I love Katerina Bolka. Ouais, il y a toujours les marques de le rouge à lèvres.
Il y a écrit sur la vitre, information publique, merci de bien vouloir respecter cette sépulture dont l'entretien et le nettoyage sont exclusivement à la charge de la famille.
Oui.
Et il y a son ami qui est très présent dans le film aussi, qui a été l'un de ses amants.
Robbie Ross,
dont les cendres sont maintenant dans la tombe de Scarlett.
Ils sont là, oui, ils sont enterrés ensemble. Mais ça, pour moi, c'est la vraie histoire d'amour.
Il est mort bien longtemps après. Voilà, c'est pour vous, c'est ça la vraie histoire d'amour. C'est pas Alfred Douglas.
Non.
C'est Robbie Ross.
Robbie est là et Oscar est en dessous.
J'ai été ravi de faire cette balade avec vous.
Moi aussi.
Je rappelle que The Happy Prince, votre premier film en tant que réalisateur, vous interprétez le rôle d'Oscar Wilde, sort au cinéma avec Colin Firth, avec
Emily Watson, avec Tom Wilkinson, avec Béatrice Dahl, André Prévin, Benjamin Voisin.
Mais je vous souhaite le meilleur.
Merci beaucoup, merci pour tout.
Quant à nous, on se retrouve dimanche prochain à 11h. Je vous souhaite un beau dimanche, une belle journée.